Joyeux anniversaire! Salut à tous et bienvenue dans cette 30e édition de la chronique des composants. Nous enregistrons aujourd'hui le 30e épisode. Nous sommes le 11 octobre 2016 et c'est tout de suite. Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, vous nous retrouvez pour la chronique des composants, l'émission un peu hors série, mais pas tant que ça, de Tech Café qui fête aujourd'hui son 30e épisode. Et on peut souhaiter un très bon anniversaire dans le cadre de cette chronique des composants à Guillaume Poggiaspala, alias le papa de la chronique des composants. Salut à toi, ouais, et bon anniversaire.
Merci, mais ça ne me rajeunit pas.
Oh bah non, bah il fallait bien fêter ça quand même. On a tout un programme évidemment digne d'une chronique des composants mémorables qu'on va pouvoir partager ensemble. On va commencer par une petite news que j'avais notée, je m'étais empressé, c'est rare hein, d'aller noter cette petite news dans la feuille de route de la chronique des composants. Une info aurait été identifiée dans le code source du dernier système d'exploitation d'Apple pour les Mac, qui semblerait-il indiquerait qu'on aurait bientôt droit à des Mac qui tourneraient avec des processeurs ARM. Alors, on a vu plusieurs articles fleurir sur le sujet. Je ne pouvais pas m'empêcher de poser la question à Guillaume pour savoir si c'était désormais inévitable de voir un retour vers une nouvelle transition de processeur dans l'univers des Mac.
Écoute, j'ai vu cette news, donc alors pour être précis, effectivement, dans le code source du noyau, puisque on trouve ça dans Mac Machine H, on a un certain nombre de définitions donc de CPU qui dégagent, les plus vieux, et on a un nouveau CPU qui s'appelle Hurricane. Et Hurricane, c'est un inconnu, personne ne sait qui c'est, mais la tradition d'Apple de nommer ses puces en fonction, quand ils nomment Cyclone, Twister, donc ils les nomment comme des tempêtes, pourrait faire penser effectivement qu'il s'agirait du prochain CPU d'Apple. Et effectivement, comme c'est le noyau de macOS, on peut se dire, tiens, ça veut dire que macOS pourrait tourner sur le prochain CPU d'Apple. Bon. De là à dire que les prochains MacBook, les prochains Mac Pro, je ne sais quoi, tourneront sur des processeurs ARM, alors il faut quand même se méfier, parce que même si effectivement il y a des... un mec qui s'appelle d'ailleurs Ben Badgerin, qui est analyste dans une boîte qui s'appelle Creative Strategies, qui a dit que ce serait inévitable, ne serait-ce que parce que c'est une compagnie Apple aussi qui se fait fort d'être extra en pointe au niveau de la sécurité et du chiffrement, et que donc il faudrait qu'ils contrôlent tout, et que être dépendant d'Intel, ça serait pas tenable sur le long terme. Malgré tout ça, moi je suis pas convaincu. Pour être tout à fait honnête, je suis pas vraiment convaincu, parce que ce serait vraiment très compliqué. Alors, d'un point de vue des performances, c'est vrai que ce serait possible de fabriquer des MacBooks en particulier qui soient sur les prochains processeurs A10 ou je ne sais quoi d'Apple. Parce que c'est vrai que, oui, les processeurs Apple sont très bons, ils ont une très bonne performance et ils rivalisent en termes de performance avec les processeurs Intel. Bon, malgré tout, ça serait quand même, déjà, s'aliéner Intel, ça rapporterait pas, enfin, ça économiserait plutôt pas énormément d'argent, je pense, franchement. Et ça permettrait à Apple, quoi de plus, finalement, hein, avoir ses propres processeurs. Oui, ça leur permettrait d'optimiser encore un petit peu plus leurs puces pour leurs logiciels, comme ils le font, c'est vrai, mais ça les couperait des usines Intel, a priori. Tu vois, or, les processeurs Intel sont très bons, eux aussi, ils n'ont rien à envier aux processeurs d'Apple, hein, et ils sont même probablement un peu meilleurs, et surtout, ils sont fabriqués avec l'état de l'art de la fabrication de processeurs, hein. Ils sont, le processus 14 nanomètres d'Intel, c'est le meilleur du monde, à l'heure actuelle. Donc, pourquoi se priver des meilleures usines du monde, c'est pas clair. Ensuite, le plus gros obstacle à une transition, c'est que les processeurs ARM et les processeurs Intel ne parlent pas du tout le même langage, et que donc, du jour au lendemain, la totalité de la Logitech des Macintosh deviendra incompatible avec les nouveaux processeurs, et qu'il faudra envisager...
Mais c'est ce qui s'est passé lors du passage des PowerPC vers Intel, si je ne me trompe pas.
Absolument, et ça a été une plaie. Ça a été une plaie. Ça a été absolument affreux. Hein. Il a fallu faire des couches logicielles de traduction simultanée qui était vraiment lourde et qui ralentissait très nettement tous les programmes qui n'étaient pas en natif, en code natif. Et honnêtement, pourquoi faire? À l'époque où ça s'est passé, c'était... alors, si je me souviens bien, c'était quoi ? C'était en 2005. À l'époque où ça s'est passé en 2005, les processeurs Intel étaient très, très nettement au-dessus des processeurs PowerPC.
Ça avait été annoncé, d'ailleurs, on se rappelle, hein, de la keynote où Steve Jobs avait justement dit, effectivement, bon, en gros, ils expliquaient que les PowerPC, ils n'étaient plus dans la course et qu'ils s'étaient entêtés là-dedans et qu'il fallait reconnaître que désormais, il fallait passer à Intel, quoi.
Exactement. Là, le truc, si tu veux, c'est que on n'est pas dans ce, on n'est pas du tout dans cette... dans cette optique-là. À l'époque, les PowerPC avaient un vrai retard de technologique et Intel était très largement au-dessus et ne pouvait de toute façon que s'améliorer. Alors que PowerPC, c'était vraiment pas clair. Donc, lorsque la transition était faite, elle paraissait obligée, si tu veux. Ils l'ont pas fait par, ils l'ont vraiment pas fait, si tu veux, juste par plaisir, quoi. Ils l'ont fait parce que c'était obligé. Aujourd'hui, la situation est très différente. Intel produit de bons processeurs qui n'ont aucun retard technologique, au contraire, et qui probablement ne cesseront encore une fois de s'améliorer parce que Intel va probablement conserver son lead, même si le différentiel avec les autres les industriels, bon, on va dire, se réduit légèrement. Je vois pas pourquoi est-ce que Intel, pourquoi Intel serait pas préférable à TSMC ou Samsung. Par exemple, plus bas pour les process de fabrication, quoi. Donc, je vois aucun motif sérieux pour lequel les Macintosh pourraient passer à leur propre puce. Et le coût pour migrer la totalité de l'écosystème logiciel vers les ARM serait vraiment très élevé, quoi. Et ce serait, pendant plusieurs années, il y aurait des problèmes de performance sérieux, des lourdeurs sérieuses sur toutes les machines. Je vois pas l'intérêt de faire ça dans un premier temps. Honnêtement, ça me paraît vraiment pas pour tout de suite, quoi.
Bon, il y a deux réactions, moi, que j'ai à ça. Il y a, bon, d'une part, je te cache pas que je te fais confiance aveuglément sur ce domaine-là, donc j'ai tendance à vouloir suivre le tempérage d'ardeur que tu soulignes. Maintenant, je me dis aussi d'un autre côté, c'est quand même peut-être pas anecdotique quand même qu'au moment où, non pas pour un nouvel OS, c'est-à-dire que c'est pas dans le cadre d'une présentation d'un nouvel OS ou de la préparation d'un nouvel OS, mais c'est bien pour cette OS-là, là, qui est déjà sortie depuis quelques semaines, que c'est en place. Et à quelques jours, semaines, de l'annonce très vraisemblable de nouveau Mac, je ne peux pas m'empêcher de me dire, il y a forcément une raison. Et je sais pas, je suis un peu excité par le truc, alors que je suis incapable de te dire ce que je trouverais particulièrement excitant.
On prend les paris. Voilà. Moi, je parie que ils vont rester sur Intel pendant encore un bon moment, plusieurs années au moins.
Plusieurs années.
Ah oui, mais pour moi, c'est plusieurs années parce que je vois pas en quoi Intel. Pour moi, Intel va rester leader au niveau des performances pendant encore plusieurs années. Je peux me tromper, évidemment. Et justement, prenons les paris, c'est très marrant. Prenons les paris, on verra si les prochains Macs sont sur.
Autre théorie, est-ce que ça paraît vraisemblable ? Est-ce que ça vaudrait pas plutôt dire à ce moment-là, c'est peut-être très très con ce que je vais te dire, tu vois. Est-ce que ça vaudrait pas plutôt dire que on pourrait bientôt utiliser macOS sur un iPad ?
Écoute, je vois pas l'intérêt de faire ça non plus, vu que l'ergonomie, elle est pas du tout, elle est pas tellement adaptée, quoi. Si tu veux, iOS, ça me paraît parfait. Non, je vois pas trop. Alors, et de toute façon, ça peut très bien être un truc interne, et ils ont des versions de test de Sierra qui fonctionnent sur des laptops qui sont même basés sur leur prochain processeur. Ils font peut-être des tests comme ça. Bon, écoute, les paris sont pris. Moi, je dis non, pas avant plusieurs années. Si jamais ils le font, toi tu dis
moi j'en sais rien. J'en sais juste rien. Ouais, s'il faut quand même que pour qu'on fasse un pari, il faut quand même que je dise que ouais, moi je dis allez l'an prochain, passe sous processeur ARM. J'y crois pas du tout, mais c'est simplement pour le plaisir du pari. Donc allez déposer en commentaire sur techcafé.fr votre avis pour savoir de quel côté vous êtes. On va en profiter aussi pour relayer un deuxième sujet que j'avais vu passer dans les petites veilles que je peux faire et j'étais à peu près persuadé qu'on pourrait en parler et que tu pourrais nous éclairer là-dessus. J'avais vu passer l'info comme quoi finalement la loi de Moore... Bon, c'est la fin ou c'est pas la fin de cette loi de Moore en fait, Guillaume ? C'est là où on va arriver. Est-ce que c'est la fin ou pas ?
Mais c'est la fin, bah, ça dépend de ce qu'on entend par loi de Moore, tout simplement. C'est-à-dire, si tu... Parce que tu sais, loi de Moore, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui le prennent comme le doublement des performances, il y en a qui le prennent comme le doublement du nombre de transistors, il y en a qui...
Moi, c'est le doublement des performances. Pour moi.
Ah, le doublement des performances. Mais si c'est le doublement des performances, alors elle peut très bien ne pas s'arrêter. C'est, ce qui pose problème, c'est
la miniaturisation,
voilà, exactement, et la taille des composants. Ça, ça pose un vrai problème. Pour le futur à court et moyen terme, on va dire. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des recherches qui sont faites pour trouver de nouveaux composants, fabriquer de nouvelles manières, et que ces composants ne pourront pas remplacer et aller plus loin. Après, il y a quand même, quand on arrive au niveau de la taille atomique, c'est vrai que ça va être compliqué de faire mieux. D'ailleurs, l'article que tu m'as relayé, c'est quand même un transistor avec une porte qui aurait quelque chose comme 1 nanomètre de long. Bon. Alors, c'est pas possible avec des composants standards, hein, avec du silicium standard. Et les gars, ils utilisent un nanotube de carbone et du molybdène disulfide, hein, qui est un lubrifiant industriel assez commun, qui permet on va pas rentrer dans les détails, ça sert à peu près à rien. Ça permet de contourner les problèmes qui sont inhérents aux très 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 faibles échelles à ce niveau-là. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails, tout simplement parce que c'est assez compliqué pour rien, mais surtout, il faut se souvenir que c'est pas la première fois qu'on a ce type de truc, qu'on a ce type de, d'annonce. C'est il y a 8 ans, il me semble, il y avait déjà, dans un laboratoire, des mecs qui avaient fait un transistor qui faisait peut-être 5 nanomètres, ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. En tous les cas, c'était aussi très impressionnant, on s'était dit « Ah, ben la loi de Moore, sans problème, c'est tranquille. » Alors, je dis pas que la loi de Moore, elle est morte, tout ça, tu sais, Mais ce qui est clair, si tu veux, c'est que ce sont des découvertes, on va dire, des avancées technologiques qui sont faites dans les laboratoires, qui utilisent des nouveaux matériaux qui sont absolument pas compatibles avec les processus de fabrication actuels, et que du coup, c'est pas du tout des choses qu'on va voir arriver dans 2 ans, pour permettre à la loi de Moore de continuer. La loi de Moore, c'est tous les 2 ans, hein, je précise.
Bon. Ah oui, moi j'avais ça en tête tous les ans, moi, effectivement.
Là encore, ça dépend des... ça dépend des gens. Mais bon, disons que voilà, ces trucs-là, si tu veux... c'était le 17 avril 2008, tiens, voilà, sur le New Scientist, il y avait aussi un truc qui était basé sur le graphène, qui permettait de faire des transistors à l'échelle quasi atomique, quoi. Bon. Donc il faut pas s'emballer tout simplement parce que on n'est pas sur des processus industriels qui vont venir pallier les problèmes qu'ont les industriels comme Intel, Samsung ou TSMC actuellement, quoi. Et en fait, quand je disais que la loi de Moore allait parvenir à, enfin la dernière fois je disais la loi de Moore elle va se calmer un petit peu là parce que ça commence à devenir difficile, c'est toujours le cas parce que là on parle de processus industriels qui jusqu'à présent permettaient de faire des innovations, d'avoir des miniaturisations tous les 2 ans, et ça, clairement, ça reste vrai. Hein, c'est pas parce que dans un laboratoire, ils ont réussi à faire un truc avec des nanotubes de carbone que dans 2 ans, on va pouvoir exploiter ça à l'échelle industrielle. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps, et c'est pas forcément des process qui sont viables, justement, à grande échelle. Donc, on voit beaucoup passer ce genre de truc, et d'ailleurs, une de ces techniques, un jour peut-être, sera dans vos ordinateurs, tu vois. Mais c'est très difficile de dire laquelle et à quelle échéance, par contre.
Ouais, il y a clairement une différence entre préparation de l'industrialisation et puis expérimentation au laboratoire, quoi. On va faire un petit follow-up peut-être sur les ordinateurs quantiques, Guillaume. On a parlé de D-Wave. Ça avance toujours, ça progresse.
Écoute, on avait déjà longuement parlé du D-Wave et des processus d'optimisation par recuit simulé quantique.
Ah,
et là,
quelle beauté.
Je vous renvoie à la CDC qui parle de ça en l'horloge en travers, et qui permet donc d'accélérer de manière incroyable, en tous les cas, on espère de manière incroyable, les algorithmes d'optimisation, c'est-à-dire de minimisation ou de maximisation d'une certaine fonction de coût. C'est des trucs, on en a parlé. Le D-Wave, c'est donc un accélérateur quantique qui serait donc applicable à ce genre de problème. J'ai dit bien un accélérateur quantique et pas un ordinateur quantique, parce que c'est pas un ordinateur qui est programmable au sens standard, c'est juste un accélérateur, on va dire, un dispositif qui est capable de résoudre certains types de problèmes. Et donc, avant, il avait 1000 qubits qu'il fallait configurer pour le faire coller au problème qu'on avait. Maintenant, il en a 2000. Alors, d'après le concepteur, ça a fait une augmentation de 1000 au niveau des performances, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est clair, c'est que si à l'époque où on avait fait le podcast, le D-Wave était plus un dispositif expérimental qu'autre chose, là, avec 2000 qubits, il est tout à fait possible qu'il devienne vraiment utile pour des applications réelles. Donc oui, ça commence à devenir intéressant parce que les accélérateurs quantiques, même spécialisés, peuvent, à assez brève échéance, devenir une réalité. Et ça, c'est quand même très, très, très fort.
Bah, chouette, tant mieux. C'est quand même chouette de voir si ça va servir à quelque chose. Mais effectivement, j'ai essayé de retrouver le numéro, mais pour l'analogie, le recul simulé et compagnie, c'était les... On visualisait ça sous la forme de calcul d'un point entre des creux et des sommets, etc. Donc, remonter un peu dans le flux du podcast Tech Café pour une précédente chronique des composants.
Pour l'utilité du D-Wave, par contre, y a un truc qui peut être... justement, parce que à quoi ça peut servir ? Il y a eu une conférence qui s'appelle Recode à Londres il y a pas longtemps, et il y a une entreprise qui s'appelle Ocado, qui est un supermarché en ligne tout simplement, qui mise énormément sur l'automatisation de ses procédés et qui possède une structure assez rigolote au niveau des Enfin, vous savez, vous allez dans un supermarché et effectivement, quand vous prenez votre chariot et que vous voulez le remplir, vous avez un chemin à parcourir. Bon, tout ça est extrêmement inefficace, donc effectivement, si on veut rationaliser tout ça, le mieux, c'est de fabriquer une espèce de grille, et à chaque intersection de la grille, vous avez des caisses d'un seul et même produit. Tout l'enjeu va être donc de dire au robot, je veux tel type de caddie de course, fais-le le plus vite possible. Et si possible, tu peux en faire plusieurs à la fois, tu vois, prendre plusieurs commandes à la fois et optimiser en fonction des commandes pour avoir le moins de chemin à parcourir.
Pas forcément de faire ça de manière séquentielle, quoi.
Exact, surtout pas. En fait, le but, c'est de faire le plus rapidement possible, de passer par le moins de nœuds possible avec l'ensemble de caddies prescrits, tu vois, c'est ce genre de problématique. Et donc ça peut être combinatoirement, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment casse-couille, parce que tu t'imagines qu'il faut parcourir cette grille-là, il faut la parcourir virtuellement un très très grand nombre de fois. Si tu as si tu as plusieurs paniers qui sont assez garnis, ça fait beaucoup d'items, et donc ça peut être extrêmement lourd en calcul. Et ça, c'est typiquement le genre d'optimisation qui peut être vraiment intéressante au niveau si on peut faire ça de manière quantique et diviser le temps de calcul par 1000, c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu non plus que les accélérateurs quantiques puissent être utilisés dans le deep learning, et ça me fait penser à une autre problématique qu'avait ce même magasin de supermarché en ligne, là, qui se disait, bon, bah, c'est bien d'avoir un robot qui se balade de manière optimale sur une grille sur une liste de courses, mais ce qui est nul, c'est qu'on a quand même un être humain qui remplit le caddie. Pourquoi ? Ben parce que c'est compliqué. Dans chaque case, vous avez un article différent. Donc vous avez une pastèque, vous avez une barre chocolatée, vous avez un mixeur. Bon. Et ça, effectivement, c'est assez compliqué pour un robot d'apprendre à prendre efficacement des objets qui peuvent être vraiment très différents, d'une morphologie très très différente. Et du coup, il y a aussi des réponses à ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'intelligences artificielles très spécialisées qui sont extrêmement bonnes à ce qu'elles font. Par exemple, elles peuvent jouer au Go et battre le champion du monde. Il y en a une autre qui peut jouer à Super Mario et vous mettre minable. Mais effectivement, l'une ne peut pas faire ce que fait l'autre. Elle ne peut pas apprendre des choses vraiment très différentes comme ça. Du coup, pour un robot, utiliser le deep learning pour apprendre à saisir efficacement des parquets 4, c'est faisable. Par contre, le problème, c'est si après on lui demande de saisir des oranges, ça peut être, il peut désapprendre ce qu'il a appris. Et ça, c'est assez embêtant. Et du coup, il y a des nouveaux algorithmes qui sont capables justement d'aligner comme ça les réseaux, c'est-à-dire il y a plusieurs réseaux, et les réseaux, au lieu de s'effacer l'un l'autre, ils cohabitent et ils peuvent même se renforcer l'un l'autre. Et il y a des expériences qui sont assez intéressantes qui ont été faites avec des robots virtuels dans des environnements virtuels, parce que c'est très pratique le virtuel, hein, vous cassez rien, vous pouvez faire des expérimentations. Et d'ailleurs, il y a un moteur qui s'appelle Mujoco, qui a été utilisé pour faire des dizaines de milliers de simulations avec des bras robots virtuels. Et ces trucs-là ont permis donc, en une journée, d'entraîner un robot à saisir différents types d'objets et à s'adapter à différents types d'objets sans pour autant oublier ce qu'il a appris à chaque fois. Donc il y a de vraies avancées à ce niveau-là qui sont très très intéressantes. Et la problématique, c'est une problématique vraiment qui est réelle, quoi. C'est celle d'avoir un robot qui puisse s'adapter à différents types de trucs pour automatiser toute la chaîne du supermarché en ligne, quoi.
Ça touche quand même effectivement une sacrée évolution parce que ça enlève un frein clair qu'on avait identifié ensemble. Enfin, quand tu nous avais expliqué toutes les mécaniques de deep learning, c'était quand même un frein d'avoir qu'un seul type d'apprentissage ou un seul type de capacité de raisonnement. Là, si on peut les multiplier et les imbriquer les uns avec les autres, ça devient quand même quelque chose de particulièrement intéressant, quoi.
Elles peuvent se renforcer aussi parce que c'est quand même le même domaine. C'est-à-dire, il faut pas. C'est quand même saisir des choses avec un grand robot, tu vois. C'est pas jouer aux fléchettes et écrire des poèmes, tu vois. C'est pas des choses
bloquées.
Donc pour l'instant, c'est encore des apprentissages de type voisin qui peuvent cohabiter. Mais après, effectivement, peut-être généraliser ça dans l'avenir, c'est possible.
Parfait. Écoute, excellent. Désolé, je pensais qu'on avait fait le tour pour les news autour de D-Wave. On va passer à la rubrique K2000 que tu as sobrement intitulée comme ça pour faire une petite référence à nos véhicules à quatre roues mais particulièrement intelligents. À commencer par des annonces d'NVIDIA.
Oui, nos jeunes années avec Michael Knight et compagnie.
C'était cool.
Hein ? Ouais, c'était cool. Hein ? Ouais, c'est vrai. C'était il y a 30 ans, tu vois. C'est,
oui, comme quoi ?
30, c'est le truc. C'est
bon.
C'est le nombre de ce podcast.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez NVIDIA ? Bah, NVIDIA a présenté Xavier. Alors, Xavier, c'est le successeur de Parker. Et Parker, c'est qui ? Bah, c'est le Tegra X2. Donc, on se souvient du Tegra X1 et X2. On en a parlé dans le podcast précédent. Ce sont ces puces qui sont donc des systèmes sur puces très performants, et donc, enfin, qui sont d'ailleurs mis dans les drives PX, qui sont les cartes mères destinées aux voitures. Donc c'est la carte mère de votre prochaine voiture, peut-être la PX2. La PX2, c'est une carte qui contient donc deux Tegra X2, qui contient suffisamment de puissance, a priori, pour pouvoir permettre à votre voiture de se conduire toute seule, ou au moins de vous assister pas mal dans la conduite. Donc ce sont des puces qui sont extrêmement puissantes, qu'est-ce qui peut se passer, évidemment, quand on a deux puces très très puissantes comme ça sur une même carte, la génération d'après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une seule puce sur la même carte qui contient les deux, quoi. Donc c'est un petit peu le but de Xavier. Xavier, c'est une sorte de PX2 sur une seule puce, au lieu d'avoir deux puces, on en a qu'une qui est deux fois plus puissante. Donc ça fait donc 8 cœurs NVIDIA propriétaires, donc probablement des Denver, et on a quand même 512 cœurs GPU dessus, c'est-à-dire deux fois plus que le GPU de Parker. Tout ça, ça fait quand même 7 milliards de transistors, gravés en 16 nanomètres, toujours, et ça représente les plans à long terme de NVIDIA, quand même, hein. Mais bon, voilà, il fallait quand même le mentionner, parce que c'est une plateforme qui peut aussi être utilisée pour le deep learning ou hors automobile. C'est assez rigolo, parce que moi j'ai vu que maintenant on avait aussi, ça c'est encore du marketing, on avait les teraflops, maintenant on a les deep learning teraops.
Teraops.
Teraops, c'est-à-dire teraopération. Et oui, parce qu'il faut matérialiser cette puissance. Donc les teraflops, c'est les instructions en virgule flottante. Les teraops, c'est tout simplement des instructions sur des entiers, en général même des petits entiers. Donc les teraops, les 20 DL teraops, puisque c'est la nouvelle terminologie inventée par NVIDIA, ce sont les calculs qu'on peut faire sur des entiers de 8 bits, tout simplement.
D'accord.
Parce que, bah, effectivement, en deep learning, on peut aussi utiliser des calculs sur des entiers, donc les accélérer, c'est toujours utile. Mais alors, bon, pour finir, pourquoi c'est quand même intéressant ? Bah, tout simplement parce que la puissance de Xavier, c'est environ 43% celle de la Tesla P40. La Tesla P40, c'est un calculateur professionnel qui consomme 250 watts et qui est réservé aux scientifiques, quoi, aux chercheurs. Ce qui est intéressant, c'est que Parker pourra proposer donc 43% de la Tesla P40 pour seulement 20 watts de consommation. Ce qui est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire oui, qu'on peut, qu'on peut faire des super calculateurs qui sont largement intégrables dans des voitures ou même dans plein d'autres petits appareils.
Tu nous rappelles pourquoi il porte ce prénom ridicule, Xavier ?
Tout simplement parce que c'est une référence au professeur Xavier, puisque tous les, ou presque tous les systèmes sur puce de NVIDIA ont des noms de code qui font référence à des héros de comics. Donc on avait Parker, pour Peter Parker, qui était le Tegra X2.
Un test d'NVIDIA pour une voiture qui s'auto-intelligentifie ou qui apprend en tout cas par analogie.
Oui, il n'y a pas grand-chose à en dire en fait. Hein. Elle s'appelle BB-8, en référence évidemment au petit robot de Star Wars. C'est une voiture autonome qui est conçue par NVIDIA avec des puces NVIDIA et des logiciels NVIDIA. Elle marche pas mal, en tout cas d'après la vidéo YouTube, et sa particularité c'est qu'elle a choisi, c'est un problème extrêmement complexe de faire une voiture autonome, il y a plusieurs manières d'envisager le problème. NVIDIA prend le parti de utiliser l'imitation, c'est-à-dire que la voiture apprend à conduire en observant des gens conduire pendant très très longtemps sur des routes différentes. Ça marche pas mal. Je suppose que ça marche d'autant mieux si on fait pas conduire la voiture par des Italiens ou des Parisiens.
C'est quand même mieux, parce que l'imitation, bonjour l'angoisse. Et puis un gros chiffre ou une grosse acquisition, en tout cas un gros mouvement qui va avoir des impacts dans le monde de l'automobile, dans l'automobile intelligente d'ailleurs.
Eh bien écoute, oui, c'est possible. En tous les cas, c'est un gros deal tout court, puisque Qualcomm va absorber NXP. Alors, qu'est-ce que c'est que NXP ? NXP, c'est un fabricant de semi-conducteurs qui est spécialisé dans les microcontrôleurs, l'Internet des objets, tout ce qui est l'embarqué, et en particulier l'embarqué dans l'automobile, donc toutes les puces d'intelligence pour l'automobile. Elle est issue de la division de semi-conducteurs de Philips. Elle a été fondée en 2006. Et c'est une entreprise énorme. Le deal entre Qualcomm et NXP se chiffrerait à quelque chose comme 30 milliards de dollars, quand même. Il faut se souvenir d'ailleurs que NXP avait elle-même absorbé Freescale en 2014. Et ça avait été aussi un énorme truc. Alors, bon, l'histoire, c'est que Freescale était Motorola Semiconductors. Quand Motorola a été démantelé, sa division semi-conducteur s'est appelée Freescale. Elle a été acquise par NXP en 2014 pour former un gros conglomérat spécialisé dans l'Internet des objets et les microcontrôleurs. Et maintenant, NXP est absorbé par Qualcomm, qui est donc un fabricant de processeurs plus généraliste, mais nettement orienté vers la mobilité, puisque c'est ce qu'on trouve dans pratiquement tous les téléphones modernes, ou dans un très grand nombre de téléphones. Cette acquisition fabrique un Qualcomm géant, une espèce de monstre, qui peut faire des processeurs pour à peu près tout le monde, des serveurs, puisqu'ils sont des processeurs 64 bits assez puissants, jusqu'aux fourchettes connectées, avec l'acquisition de Freescale, et aussi éventuellement, si, je suppose qu'ils vont le faire, le secteur automobile et médical, grâce à l'expertise d'NXP. Donc au niveau intellectuel, si tu veux, c'est clair qu'il y a une grosse complémentarité entre Qualcomm et NXP, qui peut du coup balayer un spectre extrêmement étendu de produits et de clients. Donc c'est assez intéressant pour Qualcomm. Est-ce que ça va bien marcher ? C'est pas totalement clair. Il faut rappeler quand même que NXP, c'est une entreprise hollandaise, et Qualcomm est une entreprise américaine. Bon, est-ce que les cultures d'entreprise vont bien se marier ? Ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, au niveau stratégique, c'est clair que ça forme un espèce de monstre dans le domaine du semi-conducteur.
Après K2000, K3000, normal, on va s'amuser, on va faire un peu de revival sur Doom cette fois-ci.
Ouais, tu as joué à Doom ?
Ouais, j'ai joué à Doom, bien sûr.
Aussi à Doom, on a tous joué au multi.
Avec ses graphismes, ses sons.
Exactement.
Et puis son scénario
palpitant. Tous ces personnages qui durent pas trop.
Je crois que c'était la suite de Doom qui. Non, je dis peut-être bêtises. Ouais. C'est Return to Castle Wolfenstein et compagnie. Là, c'était quoi par rapport à Doom ?
C'était celui d'avant, Wolfenstein, c'était celui d'avant, ouais. Il y avait Wolfenstein 3D, qui avait commencé les moteurs raycasting, là, et il y avait Doom, ensuite, qui a perfectionné le truc en mettant un sol et un plafond, parce qu'il n'y avait pas de sol ni plafond dans Wolfenstein.
Aïe, aïe, aïe,
et oui, qu'est-ce que c'est bon. Grâce au génie de Carmack, tout ça a été fluide sur un 286, quand même, hein. c'était vraiment très très fort. Enfin bref, voilà, toujours est-il que Doom est aujourd'hui open source, depuis longtemps d'ailleurs, et c'est très utile parce qu'il a des graphismes qui ne sont pas extrêmement évolués, certes, mais c'est quand même un bon test.
Minecraft
pour savoir...
est plus. Non, pardon. Non, je
Minecraft est plus évolué, oui. Beaucoup plus évolué, même.
C'est chaud, putain.
Doom, ouais, il pique les yeux aujourd'hui. Hein.
Aïe, aïe.
Mais le fait qu'il soit simple, le fait qu'il soit, que ce soit un environnement virtuel en trois dimensions, qu'il soit extrêmement rapide de générer, ça le rend plutôt attractif pour tester des intelligences artificielles. Et c'est l'objectif de VizDoom, qui est une plateforme qui permet justement de faire facilement jouer des agents pilotés par des intelligences artificielles à Doom. Effectivement, ils peuvent jouer à des vitesses largement supérieures aux humains s'ils veulent, et les intelligences artificielles, donc, elles jouent dans les mêmes conditions qu'un être humain, c'est-à-dire en ne voyant que ce qui est affiché sur l'écran. Tout simplement. Mmh. Et là, elles ont le retour son aussi, et c'est tout. Et du coup, les concepteurs font des équipes d'agents artificiels, des agents qui vont se friter sur deux maps, enfin deux pistes en fait. Donc, y a...
J'imagine même pas le budget qui est alloué à ce genre de truc.
Non, mais il n'y a pas beaucoup de budget, parce qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Doom est open source, la plateforme elle est bonne. Les mecs, ils utilisent des algorithmes de deep learning qu'ils ont, enfin, c'est des spécialistes. Hein. Y en a qui ont fait ça tout seul, qui ont fabriqué des agents tout seul.
C'est génial. Hein.
Et donc, ouais, donc y a deux niveaux de difficulté, on va dire. Un où tout est assez balisé et un autre où les intelligences artificielles doivent se déplacer et se repérer dans un environnement qui n'est pas connu à l'avance. Et il y avait 12 matchs de 10 minutes, je crois. Et pour le track 2, il y avait 4 matchs de 10 minutes sur des maps différentes. Et donc, qui a gagné ? Eh ben, c'est Facebook. C'est la team F1 de Facebook qui a gagné. Hein, donc ce sont les chercheurs Yuxin Wu et Wang Dongtian qui ont de Facebook qui ont gagné sur le track 1, donc le truc ultra balisé.
C'est n'importe quoi quand on y pense.
Alors que sur le track 2, plus compliqué, c'est Intel, les laboratoires Intel qui ont gagné, Alexei Dozibitsky et Vladlen Koltun qui ont largement dominé au score. Sur le track numéro 2, qui ont gagné quand même 10 des 12 rounds. Donc c'est, voilà, Intel et Facebook ont gagné, et donc ça veut dire que la recherche privée est quand même nettement au-dessus de la recherche publique, puisqu'ensuite on a aussi des agents créés par des institutions publiques qui se sont pas trop mal débrouillés quand même, dont Arnold, qui vient de l'université de Carnegie Mellon, donc ce sont deux étudiants en sciences de l'université de Carnegie Mellon. Bon, il y a aussi Clyde qui a fait une performance honorable, on va dire, qui vient de l'université d'Essex, et Tuo qui vient de l'université de Finlande, qui par contre eux ont réussi une performance correcte sur le track 1, ce qui est déjà pas si mal. Donc c'est assez rigolo de voir que d'une part les IA jouent très bien à Doom. Et d'autre part que c'est pas la recherche publique qui est la plus en pointe sur le sujet, mais ça on s'en serait douté malheureusement.
Bon, tu viens de nous donner un usage complètement convaincant des intelligences artificielles, est-ce que tu peux nous en donner des un peu plus convaincants encore ?
Ben oui, écoute, il y a un gars qui s'appelle Dave Palmer et qui est président de la firme de cybersécurité Dark Trace qui s'inquiète beaucoup. Parce qu'il a donné une interview et il a dit que toutes ces intelligences artificielles, tout ça, tous ces progrès en intelligence artificielle, en machine learning, ça pourrait donner lieu à des malwares et des virus qui seraient extrêmement compliqués de combattre.
J'imagine.
Alors, il cite le phishing standard, c'est-à-dire une IA qui pourrait analyser tous vos emails, tous les emails de vos collègues, et imiter tellement parfaitement bien, et de manière contextuelle, un SMS, par exemple, de quelqu'un, d'un de vos collègues, qui pourrait parfaitement vous infecter sans même que vous vous en rendiez compte. Ou alors des objets intelligents qui pourraient se mettre en réseau, par exemple, et pirater des sites comme ça, en levant des armées de botnets. On en parle d'ailleurs dans le Tech Café. Donc, il y a effectivement une possibilité que des attaques par des virus qui soient de plus en plus intelligents, qui utilisent des techniques d'apprentissage de plus en plus, sophistiquées, pourraient devenir une véritable plaie dans le futur.
Bien sûr.
Beaucoup de boulot pour tous les gens qui s'occupent de cybersécurité.
Ça pourrait venir très vite, on imagine. Et puis, on retombe dans un usage parfaitement convaincant entre faire des IA qui arrivent à gagner à Doom et
ça, c'est toi qui vas en parler, je pense que tu vas en parler magnifiquement. Oh,
tu m'as envoyé beaucoup de rêves tout à l'heure en me montrant un peu cette news, et puis tu m'as incité très fortement à aller voir la vidéo, donc moi-même effectivement je vous invite à aller cliquer sur le lien dans les notes de l'émission et à aller regarder la vidéo. On assiste quand même à l'apprentissage du robot Pepper dont on a déjà parlé, hein, qui apprend à jouer au bilboquet. Alors, ça peut prêter à sourire, et ça prête à sourire quand on regarde les N dizaines premières de tentatives du robot de s'en sortir. Parce qu'au début, c'est vraiment en mode gogol, quoi. On sent qu'il lance pas tout à fait au hasard, mais il n'est pas très très bon au bilboquet. Et par contre, là où ça devient quand même sensiblement moins drôle, c'est à partir de 80 essais où systématiquement la balle touche le manche du bilboquet, voire même... D'ailleurs, au passage, c'est un bilboquet quand même... Enfin, la balle n'est pas grosse, hein. La balle n'est vraiment pas grosse. Et au bout d'un moment, c'est juste qu'il manque jamais sa cible. Et c'en est extrêmement flippant. Il y a un côté très ridicule de voir la gougoule du robot qui teste bêtement de faire du bilboquet, et en même temps c'est extrêmement effrayant de voir ce qu'il arrive à faire avec un apprentissage de quelques dizaines d'essais. Finalement, c'est pas grand chose, Guillaume.
Écoute, il rate 99 fois et après il rate plus jamais.
C'est un truc de fou,
hein. Il est parfait, il a appris à jouer au bilboquet. Bon, maintenant il s'emmerde, il va falloir qu'il fasse autre chose.
Oh, c'est un truc de fou, franchement c'est flippant. Vidéo complètement bluffante, faut aller regarder absolument. On passe au dossier de cet épisode, de cette chronique des composants, Guillaume ?
Mais bien sûr, pourquoi pas.
Le dossier de l'écran. Alors, on va essayer d'y voir clair, peut-être, à l'heure où fleurissent plein de nouveaux formats d'écran, de technologies, de résolution. Et j'avoue que moi-même, je suis complètement largué. Je m'en étais arrêté à l'époque au 720p, où on m'avait bien expliqué que c'était du HD ready, que c'était pas du vrai full HD. Il faut pas que t'achètes ça. Il faut attendre le 1080p, qui est aujourd'hui un standard, hein, on va dire, dans la résolution. Il y a eu plein de technologies, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair dans cet univers fantastique ? Et puis, est-ce que concrètement, ça va servir à quelque chose ? Moi, j'ai toujours cette petite réserve de dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces innovations, maintenant ?
Écoute, déjà, c'est vrai qu'on ne parle pratiquement jamais de l'écran. Là, on est dans la chronique des composants, on parle de plein de composants, mais c'est surtout des puces, c'est surtout des capteurs, des choses comme ça, et on parle rarement de l'écran, alors que c'est quand même un composant fondamental, hein, ouais. Que ce soit un téléphone, un ordinateur, bon, une télé, évidemment, c'est fondamental. Et ça a fait énormément de progrès. Alors, moi, je le constate bien, parce que j'ai une petite collection de consoles mobiles, de consoles portables, et j'ai donc des Game & Watch, avec des écrans LCD, avec des qui sont à peu près l'équivalent d'écrans de calculatrice. Et j'ai à peu près toutes les générations jusqu'à la Vita, quoi. Et donc, il y a quand même quelque chose de vraiment impressionnant à prendre un Game & Watch, une Game Boy normale, donc une Game Boy, vous savez, la version brique, hein, celle qui a l'écran bien baveux, et de passer comme ça aux premiers écrans couleur, puis rétroéclairé, puis... on voit vraiment que ça a fait des progrès absolument incroyables. Des progrès qui sont finalement comparables aux progrès spectaculaires qui ont été faits par les semi-conducteurs. On a multiplié par 1 milliard la puissance de calcul entre les tout premiers microprocesseurs et ce qu'on a maintenant dans nos PC. Mais il faut pas oublier de ce qu'étaient les afficheurs il y a 40 ans, quoi. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et finalement, là, on est encore sur le chemin, on est encore en train d'évoluer. Et effectivement, il y a des nouveaux standards qui arrivent, des nouveaux standards qui améliorent encore la qualité de l'image. Est-ce que c'est utile ou pas? Ben, ça, ce sera à chacun de voir, tu vois, mais c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Alors déjà, on va être obligé de distinguer quand même les écrans OLED des écrans LCD, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux, donc on en a sans doute déjà parlé, mais enfin, on peut quand même en parler, enfin, on peut quand même expliquer peut-être quelle est la différence entre les deux. Tu vois la différence, toi? Tu vois les écrans?
Alors, et les... Moi, ça fait partie des différences que je ne parviens pas à saisir et qui ne sont pas du tout claires, donc tu vas m'apprendre tout ça. Je sais juste que l'iPhone, typiquement, dans sa dernière version, y compris donc le 7, là, est toujours en LCD, si je ne me trompe pas, toujours. Et là où on a la concurrence qui est en Super AMOLED.
Pas toujours, mais c'est assez rare même.
Ah bon, d'accord, bah en OLED en tout cas, non, même pas. Non, même...
OLED, AMOLED, c'est pareil. Hein.
OLED, AMOLED,
on va être plus précis que ça. Alors, globalement, il y a deux technologies d'affichage. Il y a ce qu'on appelle les écrans LCD, donc Liquid Crystal Display, qui sont des écrans à cristaux liquides. Alors, le principe de fonctionnement d'un écran à cristaux liquides, c'est joli, cristaux liquides, hein, n'empêche.
C'est très beau.
C'est poétique. Ouais. Hein,
beaucoup plus que plasma. Moi, j'ai une télé plasma encore chez moi.
Il y a aussi la technologie plasma. Bon, on va pas en
parler.
Mais ça, elle
est plus anecdotique.
Ouais, puis de toute façon, c'est un peu mort maintenant.
C'est moins beau, plasma.
C'est un petit peu mort. Bah, c'était une bonne techno, je trouve, mais bon, elle avait ses problèmes, et puis maintenant, c'est un peu fini. Mais c'est vrai que cristal liquide, c'est magnifique, hein, parce qu'on peut dire, mais quel rapport, tu vois, le cristal de roche, les diamants, tout ça, et le liquide, c'est deux choses qui sont complètement différentes, qui sont même opposées, tu vois, un liquide au niveau microscopique.
C'est comme un froid chaud, quoi.
Ben exactement, c'est quand un liquide au niveau microscopique, c'est quelque chose où les molécules bougent les unes vers, tu vois, alors, comment il peut y avoir de l'ordre,
bien ordonné,
chose comme ça, tu vois, c'est vraiment, donc c'est très poétique, cristal liquide, et c'est une vieille histoire, hein, quand même, hein. C'est un truc qui a été découvert il y a plus d'un siècle. Et qui a été petit à petit utilisé en technologie. Alors pourquoi cristaux liquides? Bon, alors déjà, un cristal liquide, c'est donc un liquide dans lequel vous avez des molécules qui ont une forme particulière et qui ont tendance à s'orienter sous l'effet de la température, d'une tension ou ce genre de choses. Et donc, les cristaux liquides qui sont utilisés dans les écrans, en général, ce sont des liquides qui contiennent des molécules qui sont en forme de petits bâtonnets, et ces petits bâtonnets peuvent s'orienter en fonction d'un champ électrique. Alors, pourquoi faire? Bon. Ben parce que ces petits bâtonnets sont capables de changer la polarisation de la lumière. Alors, la polarisation de la lumière, bon, c'est pas extrêmement compliqué, hein. Vous avez une onde lumineuse. Cette onde lumineuse, bon, ben, on n'a qu'à imaginer qu'elle oscille selon une direction particulière. Voilà. Mmh. On peut imaginer que si vous voulez voir les photons, vous pouvez imaginer que les photons, ils ont une petite flèche, un petit vecteur sur la tête, une petite flèche, et qu'ils l'ont orienté dans une direction particulière. Et un photon, il peut être orienté donc dans n'importe quelle direction, à 360 degrés, hein, il peut être orienté un petit peu n'importe comment. Bon, il s'avère aussi que quand la lumière est polarisée, c'est-à-dire selon une direction, c'est-à-dire que vous avez des ondes lumineuses, donc des photons qui ont une direction spécifique, ils ne peuvent pas passer à travers un filtre, un filtre qui a une direction qui est perpendiculaire. C'est comme si vous aviez des fentes, et bon, ben voilà, si vous avez une polarisation horizontale, ils ne peuvent pas passer par des fentes verticales.
D'accord, c'est un filtre.
Voilà, okay. C'est un filtre. Par contre, si vous avez une polarisation qui est à 45 degrés, les photons ont une chance de passer, une chance sur deux, en fait, de passer par les fentes verticales. Bon, ça, c'est un truc. Alors, comment on fait un écran à cristaux liquides? Ben, un écran, c'est une succession de pixels, donc c'est des choses qui peuvent être, c'est des petits éléments d'image qui peuvent être allumés ou éteints. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez un rétroéclairage, vous avez une source de lumière qui est derrière. Cette source de lumière, elle est polarisée par un premier filtre. Disons qu'elle est polarisée verticalement. Bon. Ensuite, vous avez une couche de cristaux liquides, et après, vous avez un autre filtre qui est polarisé à 90 degrés. Donc, normalement, si la lumière passe directement, vous avez de la lumière qui est polarisée horizontalement, qui heurte un filtre à 90 degrés, donc elle ne passe pas. Donc, c'est noir. Bon. Maintenant, le cristal liquide qui est au milieu, lui, il est fait de petits bâtonnets, et ces petits bâtonnets, ils peuvent tourner comme ça, si on leur applique un courant, ils peuvent tourner, et ils peuvent changer la polarisation de la lumière. Donc, la lumière qui passe par le filtre, elle est polarisée verticalement. Si vous appliquez pas de tension, elle passe pas. Si vous appliquez une tension, le champ magnétique tord, le champ électrique tord le cristal liquide, les molécules du cristal liquide. Il polarise la lumière dans le bon sens, et donc une lumière polarisée horizontalement arrive sur le filtre horizontal et elle passe.
Mais ça, ça fait du noir et du blanc, mais ça fait pas de la couleur, par contre.
Ah non, non, mais attends, oulala, oulala. Chaque chose en son temps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la technologie TN, c'est-à-dire Twisted Nematics. Twisted, c'est-à-dire nématique tordue. Donc, nématique, c'est la phase des cristaux liquides. Et ces cristaux liquides nématiques, ils sont tordus par le champ. Cette torsion, elle permet de tordre, disons, de changer l'orientation de la polarisation de la lumière. Et c'est comme ça qu'on allume ou on éteint un pixel. Et si on a, selon qu'on tord plus ou moins ces molécules dans le cristal liquide, on va avoir une polarisation qui est plus ou moins inclinée et on va avoir plus ou moins de lumière qui passe.
D'accord, donc là on a l'intensité déjà.
On a l'intensité. Et ensuite, bah, comment on fait de la couleur? En réalité, c'est simple, hein, chaque pixel est composé de 3 sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. Et en modulant l'intensité chacun de ces sous-pixels, on obtient de la couleur.
J'ai cru à un moment qu'en changeant un petit peu la façon dont c'était polarisé, on pouvait créer différents niveaux de lumière.
Absolument pas. La source de lumière qui est derrière, elle est forcément blanche, ou en tout cas, elle est supposée blanche. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Elle n'est pas purement blanche. C'est pour ça qu'on essaye de la rendre la plus blanche possible. Alors, avant, on avait des sources de lumière, on avait des tubes. Comme des tubes néons, en fait. On avait des tubes fluorescents derrière les écrans pour faire la lumière blanche. Et on avait une lumière, d'ailleurs, qui était raisonnablement blanche. Bon, malheureusement, les tubes fluorescents consommaient pas mal d'énergie, donc on les a virés, on a mis des LED. Donc aujourd'hui, tous les écrans sont rétroéclairés par des LED. Et ce rétroéclairage, en fait, il est moins pur. Le blanc est moins pur. En fait, il y a plus d'ondes bleues que, grosso modo, si tu veux, le spectre n'est pas plat, c'est pas un blanc pur, on a plus de certaines composantes et moins d'autres. Et du coup, ça, il faut compenser en modulant de manière un petit peu différente le rouge et le vert et le bleu dans les sous-pixels pour pouvoir avoir quand même de la lumière blanche à l'arrivée. Alors, tout ça pour dire que quand on a du LCD, on a une technologie qui fait passer une lumière blanche qu'on module. D'accord, mais c'est le rétroéclairage que tu vois.
D'accord.
D'accord, donc ça, c'est la technologie LCD. La technologie AMOLED, qui veut juste dire Active Matrix OLED, donc ça veut dire que c'est du OLED, hein, tout simplement, elle est totalement différente parce que chaque pixel OLED est une petite diode. Tu vois les diodes, les LED, les petites diodes électroluminescentes. Mais il faut imaginer ces trucs-là, ultra miniaturisés à l'échelle du pixel, et chaque pixel d'un écran OLED créer sa propre lumière. Donc, il n'a pas besoin de rétroéclairage.
D'accord, j'ai compris. Ce n'est pas un jeu de lumière qui passe à travers des filtres. C'est une lumière point barre.
Exactement, c'est une lumière point barre. Donc, il y a plusieurs défis technologiques pour les deux technologies. Hein. Alors, l'OLED est beaucoup plus récent. Donc, OLED, ça veut dire Organic Light Emitting Device. Donc, c'est une LED. Mais elle est organique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être fabriquée avec du silicium, elle est fabriquée avec divers composés chimiques qui sont différents et qui permettent, enfin qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, disons, on va dire. De notre côté, l'OLED n'a pas les mêmes, contraintes au niveau des couleurs. Tu vois, j'ai dit que par exemple, la pureté de l'aide du rétroéclairage était très importante pour les LCD. Alors que pour l'OLED, ça va être la qualité des LED. Ça va être, par exemple, les composés chimiques qu'on utilise pour fabriquer des LED. Quoi. Donc, ces deux technologies, elles ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, les LED, elles sont plus chères à fabriquer en général. Les écrans OLED sont plus chers à fabriquer. Leur durée de vie, elle commence à devenir très correcte, mais elle est plus limitée en général que les écrans LCD. Ça s'use un peu plus vite. Enfin, en tout cas, à une époque, ça s'usait plus vite. Maintenant, je suis peut-être pas forcément au courant des tout
derniers. Mais style, c'est de l'ordre de 100 et 150 ans de l'autre côté, ou c'est vraiment beaucoup plus proche? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est
à une époque, c'était de l'ordre d'une dizaine d'années.
Ah ouais, c'est pas grand-chose. T'achètes une télé pour 10 ans.
Ça a dû bien évoluer quand même. Hein,
d'accord.
Que j'ai vu ça.
Mais c'est pour ça qu'on a des écrans à l'époque, des écrans d'affichage dans les boutiques, les gares, les trucs comme ça, qui étaient probablement des techno LCD qu'on bien jauni avec le temps parfois. Quoi,
ouais, bah, après, non, bah, ça dépend. Non. Après, il y a les écrans, tous les écrans s'usent. Hein, tous les écrans s'usent d'une manière ou d'une autre. Les écrans, par exemple, les écrans plasma dont on parlait, ou aussi, il y avait une durée de vie qui était limitée par rapport au LCD. Le LCD est assez robuste, mais il a ses propres problèmes. C'est-à-dire, par exemple, on parlait d'AMOLED. Pourquoi AMOLED ? Parce que c'est Active Matrix. Alors, matrice, c'est d'ailleurs matrice active. Matrice active parce que c'est la possibilité de contrôler indépendamment chaque pixel d'une matrice, hein, donc d'une matrice d'un écran, donc par opposition aux matrices passives. Où là, par contre, on contrôle avec ligne et colonne, si tu veux. Mais ouais. Donc, du coup, on est obligé d'envoyer l'écran dans toute une ligne, et ça donne des écrans qui, en général, ont une durée de vie peut-être un petit peu moins grande, et surtout qui consomment... ça peut consommer moins d'énergie, mais en tout cas, ça donne des écrans qui sont de beaucoup moins bonne qualité. La matrice active, c'est quelque chose que tous les écrans LCD aujourd'hui utilisent, mais qui, par exemple, nécessite de mettre donc une logique de contrôle pour chaque pixel. Ce sont les fameux TFT. Tu sais, on dit c'est des écrans TFT. Ouais, TFT, ça veut dire Thin Film Transistor, ça veut dire transistor en couche mince. Et qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement les transistors c'est la couche métallique qu'on met sous un écran pour pouvoir contrôler les pixels. Ils sont faits en TFT, c'est-à-dire en couche mince. C'est pas du tout quelque chose d'anodin et de facile, parce que c'est une couche métallique qui absorbe de la lumière. Donc si au plus elle absorbe de lumière, au moins il en reste pour donc former l'image, ce qui veut dire que au plus la logique de contrôle est opaque, au plus il faut envoyer d'énergie pour fabriquer l'image, au plus ça consomme. Et donc, au moins, on peut serrer, si tu veux, cette grille de contrôle, parce que si elle est trop serrée, elle prend toute la lumière. Donc, c'est une problématique qui est très importante quand on veut monter en résolution, par exemple. C'est pour ça que l'IGZO, qui est une technologie qui est très utilisée par Sharp et dont on a parlé justement dans le Tech Café, puisque Sharp était très présent au CEATech, là, donc... Cette technologie est très intéressante parce qu'elle permet de fabriquer une logique de contrôle en TFT qui absorbe beaucoup moins la lumière. Et au moins tu absorbes la lumière avec la logique de contrôle, au plus les écrans sont lumineux, et donc au plus tu peux mettre de pixels, ou au moins tu consommes d'énergie par le rétroéclairage. Tu vois ? Donc c'est très très important parce qu'en fait, il y a eu d'énormes progrès et de véritables tours de force d'ingénierie sur les écrans TFT et sur les écrans OLED qui permettent aujourd'hui de créer de nouveaux types d'écrans. Parce que c'est grâce à tous ces tours de force d'ingénierie qu'on a des écrans Ultra HD avec énormément de pixels, bien que chacun soit contrôlé indépendamment par au moins deux transistors. C'est grâce à ces tours de force aussi qu'on a des écrans OLED qui sont capables d'afficher des niveaux de luminosité et de contraste qui sont incroyables, avec en plus des étendues colorimétriques qui sont largement supérieures à ce qu'on avait avant. Tu vois. Bon, ça va jusque-là ?
Ouais.
Donc
là, c'était surtout les technologies d'éclairage, j'allais dire, peut-être deux grandes familles, c'est ça qu'on pourrait identifier dans les technologies d'écran ?
Alors, il y a deux grandes familles, bien sûr. Il y a donc ceux qui fabriquent leur lumière tout seul, donc les écrans OLED, où chaque pixel fait sa lumière tout seul, et les écrans LCD, où c'est la lumière du rétroéclairage qui est modulée.
Ok.
Donc, alors, c'est important parce qu'il y a certaines terminologies. Donc, déjà, OLED et AMOLED, c'est cette terminologie-là, on a expliqué. Il y a aussi la terminologie de quantum dot qu'on voit apparaître sur les téléviseurs. Alors, j'en ai déjà parlé des quantum dots, hein, les boîtes quantiques. Les boîtes quantiques, ce sont, pour faire très très simple, hein, mais on en a parlé dans une autre CDC, donc si vous pouvez retrouver c'est sans doute retrouvé dans les liens de l'émission.
Dans les notes et dans les historiques, ouais.
Les quantum dots, en fait, sont là pour harmoniser le rétroéclairage. Donc j'ai dit que le rétroéclairage des LED n'était pas pur, ne donnait pas du blanc pur, et que donc les télévisions avaient du mal à reproduire autant de couleurs qu'est-ce qu'elles pourraient. Parce qu'il faut moduler du blanc, tu vois, pour avoir toutes les couleurs. Si tu modules du blanc qui est un peu bleuté, tu auras beaucoup de mal à moduler des couleurs dans le rouge. Du coup, pour augmenter le gamut, c'est-à-dire l'étendue de diversité des couleurs qu'un écran peut faire, il faut avoir des sources pures. Et pour avoir des sources pures, une des possibilités, c'est d'utiliser des boîtes quantiques qui permettent de prendre la lumière de rétroéclairage, de l'absorber, de la réémettre sous la forme d'une lumière plus blanche que la lumière de départ.
Plus blanc que blanc, c'est beau.
Exactement. Donc on fait la lumière qui est plus blanche que blanche, et c'est pour ça que les quantum dots permettent d'avoir un espace colorimétrique qui est beaucoup plus grand que les télés qui n'en sont pas pourvus, quoi.
Ok, on peut pas parler de HDR.
Eh bien si, alors si, justement. Donc maintenant, on va parler un petit peu donc de ces nouvelles télés. Alors les nouvelles télés, c'est il y a deux choses qui sont nouvelles dans les télévisions. Il y a d'une part le UHD, ou qu'on appelle aussi 4K, et le HDR. Alors c'est deux technologies qui sont souvent liées, parce que c'est plutôt marketing en fait, hein, mais bon, pourquoi pas, et qui sont complètement, enfin, qui sont complètement différentes, puisque l'une concerne la résolution des écrans. Donc l'UHD, c'est une résolution qui est standardisée à 3840x2160.
D'accord.
C'est une résolution TV. On l'appelle aussi 4K, mais c'est pas complètement vrai, parce que la 4K, c'est la résolution cinéma. Et 4K, c'est 4000, et c'est 4000 parce que, ou 4 kilos, hein, donc 4, à peu près 4000, et c'est le nombre de colonnes.
Donc, quand on parle de 4K, spontanément, 4K, c'est plus fin que de l'UHD.
Oui, puisque c'est 4096 colonnes. C'est donc, c'est plus fin, mais en réalité, aucune télé n'est à 4096. Les télés sont 3840, et ce sont des résolutions de projecteurs de cinéma, les 4K, 4K 2K.
D'accord.
4K 2K, donc, c'est on fait référence toujours au nombre de colonnes quand on dit 4K. Et quand on parle de 8K, ce sera une résolution de 7880x4320. Qui est déjà atteinte par des prototypes, mais qui est évidemment pas encore commercialisée, et de loin. Donc à l'heure actuelle, on a donc l'UHD qui est donc 3840x2160, et c'est quand même presque 4 fois la résolution du 1080p, qui est donc à 1920x1080, et qui est donc proche d'un 2K, si on pouvait l'appeler comme ça.
Ouais, j'allais te dire le 2K, est-ce que c'est pas le 1980 par
1920? Stricto sensu, non, mais ouais, c'est proche en fait. Hein. On est dans ces ordres de grandeur. Souvent, on utilise 2K ou UHD parce que voilà, c'est 4K ou UHD parce que c'est un petit peu pareil, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le pour la résolution. Après, maintenant,
aujourd'hui, un utilisateur lambda n'a aucun intérêt d'aller trifouiller dans les extrêmes. Qui prennent un 4K ou un UHD, ça
non, non,
ça
mais pas grand impact. 4K, sur... 4K, UHD, c'est la même chose. Si tu veux, c'est des appellations marketing après qui appellent ça 4K, ultra haute définition, ultra HD, tout ça, c'est du marketing. Ouais. Ça désigne la même gamme de résolution qui est donc 3800x2100.
Mais tiens, pour le dire autrement, il n'y a pas vraiment de gros intérêt pour un consommateur moyen de prendre une 2K plutôt qu'une Full HD, quoi. Enfin, si je prends la résolution uniquement. Hein.
Non, mais la 2K, ça n'existe pas. Les moniteurs 2K n'existent pas. 2K, c'est la résolution de projecteurs de cinéma que les projecteurs ont utilisés.
Ah oui, d'accord, je crois qu'il y avait des télés comme ça.
Non, il y a des télés sont... Alors, il y a des télés qui sont en 1280 par 720, toujours. Il y a toujours les fameux HD Ready, là. Bon, ça existe encore.
Ouais, les fameux HD Ready, ouais.
La plupart des télés sont 1080p, parce que bon, le P ne sert plus à rien, parce que plus personne ne passe un entrelacé aujourd'hui. Mais bon. Et il y a certains projecteurs qui sont en 1920x1200, ça existe encore, c'est une résolution PC ça par contre.
Ouais, d'accord.
C'est très rare, c'est très rare. Donc voilà, alors donc ça c'est la résolution, ça veut dire que vous avez plus de pixels, donc une image plus fine. Évidemment, ça sert... surtout sur les grands écrans ou si vous jouez le nez collé à l'écran, quoi. C'est sûr que si vous êtes à 3 mètres de votre écran et qu'il fait voilà, vous avez 1 mètre de diagonale et si vous êtes à 3 mètres de l'écran, bon, vous n'allez pas voir une différence formidable parce que la résolution ça dépend de l'angle solide, de l'angle par lequel vous regardez votre écran, évidemment. Si l'angle est petit, les pixels vont avoir un angle tellement petit que vous ne les verrez pas. Bon.
Et d'ailleurs, est-ce que ça ne peut pas créer des artefacts même au niveau des motifs qui peuvent être restitués par la télé en fonction du contenu qui est diffusé, d'avoir une forte résolution avec un contenu qui n'est pas prévu pour et regarder à une distance normale? Non.
Ah bah, tout contenu qui est scalé à une résolution différente de sa résolution d'origine, elle risque d'avoir des artefacts, hein, que ce soit envers le haut ou vers le bas, de toute façon. Okay. Ouais, malheureusement, ça... Alors, la plupart des télé 4K, néanmoins, enfin beaucoup de télé 4K aujourd'hui ont des upscalers, c'est-à-dire qu'elles créent des détails qui n'existent pas, pour affiner un petit peu l'image. Visuellement, ça marche pas trop mal. Évidemment, ça n'a rien à voir avec une vraie source 4K, mais c'est moins pourri que ce qu'on pourrait imaginer. Mais bon,
c'est intéressant.
En termes de contenu, c'est sûr que bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques Blu-ray, donc qui sont des Blu-ray dits UHD, Alors, les Blu-ray.
Il y a quelques séries sur Netflix aussi, si je ne me trompe pas.
Il y a sur Netflix, il y a du contenu en streaming. Et bientôt, il y aura des jeux vidéo, et ça, on va en parler un petit peu après. Parce que là, en fait, bon, on parle donc de la résolution. Donc, la résolution, c'est important vis-à-vis de la taille, quoi. Hein. Si vous avez un très grand écran, ça peut être intéressant. Mais la qualité d'image, c'est pas que la résolution, loin de là, c'est aussi la richesse des couleurs, c'est-à-dire combien de couleurs vous allez pouvoir afficher effectivement sur votre télévision, et les niveaux de luminosité maxima et minima, donc le contraste, et le contraste et la luminosité maximale. Donc, et c'est là que le HDR entre en scène, en fait. Donc, sur une télévision normale, vous avez une luminosité maximale qui est celle du blanc pur, on va dire, et vous avez une luminosité minimale qui est celle du noir.
Noir, ouais. Voilà.
Donc, sur une télé OLED, le noir est noir pur, puisque le pixel est éteint.
Puisque la LED est éteinte, ouais. Ouais.
Donc le niveau de contraste. Cela
dit, on pourrait dire la même chose du non.
Bah non, parce que il y a toujours un petit peu de lumière qui passe.
D'accord.
C'est très difficile d'avoir un noir.
Il y a de la lumière,
très, très
elle est censée être filtrée à 100%, mais
c'est toujours très difficile.
D'accord.
Très, très difficile. Donc la différence donc entre les deux, évidemment, c'est le rapport, disons, entre les deux, évidemment, c'est le contraste, et le contraste réel, pas le contraste annoncé par les constructeurs, parce que c'est vrai qu'il y a grosse différence. Alors un bon niveau de contraste sur un écran LCD normal, c'est 3000 et 3000 pour 1. Donc il y a un rapport de 3000 entre le rapport minimal et entre la luminosité minimale et la luminosité maximale.
D'accord.
Alors sur une
ça veut dire qu'entre un noir et un blanc, c'est 3000 fois plus
lumineux.
Non, lumineux.
Exactement, 3000 fois plus lumineux, tout à fait.
Ce qui n'est pas zéro au passage.
Ce qui n'est pas zéro, comment dire, ce qui n'est pas zéro.
C'est 3000 par rapport à 1, mais ça veut dire qu'il y a toujours une référence de 1 pour, tu vois ce que je veux dire, pour du noir.
Non, mais c'est 3000 fois, oui, justement, pour le OLED, c'est pas vraiment.
C'est pas parlant, en fait.
Oui, pour le OLED, effectivement, comme on est à 0, on est à 0 pour le noir.
Tu vois ce que je veux dire, pour le voilà, c'est ça.
Donc on va dire, pour le LCD...
Pour zéro, ça n'a pas de sens,
c'est
mais
ça.
OK.
Pour le LCD, tu as raison, soyons clairs. Pour le LCD, c'est environ 3000, voilà, de rapport. Et donc, une télévision HDR, elle est susceptible d'afficher un contraste réel, il est même souhaité d'afficher un contraste réel de 200 000 pour 1.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah, la vache.
Oui, donc il y a un niveau de contraste qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus important. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et surtout, on a des pics de luminosité qui peuvent aller jusqu'à 1000 candela par mètre carré. C'est-à-dire au moins 3 fois plus qu'un LCD traditionnel.
D'accord, bon, ça tue tout, quoi.
La luminosité maximale est beaucoup plus importante sur un écran HDR. Et c'est très intéressant parce que, tout simplement, quand vous avez une scène ensoleillée, la lumière qui est envoyée par votre téléviseur, elle est très, 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 très inférieure à celle du vrai soleil, évidemment. Mais bon, il ne faut pas qu'elle soit égale, hein, je veux dire, bien sûr, mais si elle est plus proche, disons, de l'intensité naturelle, la scène va vous paraître plus réaliste que si vous avez une pauvre petite source inerte qui vous fait un blanc tout palichon. Voilà. Donc, globalement, par rapport à un signal TV normal, un écran HDR va couvrir une très large palette de luminosité et un contraste qui sera beaucoup plus important. Donc ça donnera une image qui sera fatalement beaucoup plus réaliste.
Bon, vu ce que tu dis, pour l'instant, ma télé idéale, c'est une bonne résolution, mais bon, je m'en fous un peu, OLED et HDR.
Et écoute, oui, d'autant plus que le HDR, comme je te disais, va non seulement donner des niveaux de luminosité qui seront plus importants, des contrastes qui seront meilleurs, mais aussi une plus grande richesse de couleurs.
C'est plus cher les télé HDR aujourd'hui ou est-ce que ça reste très accessible ?
Non, c'est très cher. C'est très cher parce qu'en général, le HDR n'est pas dissociable de l'UHD parce que les constructeurs décident souvent de marier les deux.
Mais sur des machines, à combien des écrans Marc, ça dépend de la taille.
Oui, alors, bien entendu, ça dépend de la taille, mais tu n'y as pas grand-chose à moins de 2000 euros, je pense.
D'accord. Oui, ce qui est après, quand tu es vraiment très exigeant et que tu veux vraiment... profiter d'une image incroyable, bon, 2000 euros pour une télé.
Écoute, il faudra regarder un petit peu précisément les prix. Tu sais que ça varie toujours beaucoup, quoi. Ouais. Mais
ça baisse.
je pense qu'on peut trouver... Oui, oui, ça baisse, oui, tout à fait, tout à fait. Je dis 2000 euros, à mon avis, à 2000 euros, t'as un bon écran qui doit faire plus d'un mètre, quoi, plus de 100 cm.
Ah ouais, d'accord, ok, d'accord.
Oui, alors c'est cher, mais enfin bon, c'est pas aussi cher que les premiers plasmas qui coûtaient...
Bah, clairement, ouais.
Qui coûtaient 200 000 francs à l'époque, de l'époque. Si, si, à l'époque, on en a vu des comme ça. Alors, donc, le HDR, effectivement... C'est aussi plus de couleurs, ça se traduit par des formats d'images différents, il faut faire attention. C'est-à-dire que les HDR, donc là on parle du HDR10, ce qu'on appelle le HDR10, ça s'appelle 10 parce qu'il y a 10 bits par composante. Donc tu sais, je t'ai dit que les pixels étaient faits en rouge, vert, bleu, mm-hmm. Et donc il faut bien coder numériquement les différents niveaux de rouge, de vert et de bleu. Ah, en général, c'est fait couleurs, sur 8 bits. Donc, on a 8 bits par composante, donc 256 possibilités par composante. Là, par contre, en HDR10, on passe à 10 bits par composante, ce qui fait 1024 niveaux.
Ah, et ça double, en fait.
Non, ça double pas, ça multiplie par 4.
Non, pardon, oui, 250, oui, pardon, oui, par 4.
Par composant, et par composante. Donc voilà, donc on a 3 fois 10 bits, on a 30 bits d'informations colorimétriques par pixel, au lieu de 24 bits. Okay. Donc c'est un truc qu'il faut, évidemment, ça veut dire aussi que toute la chaîne doit être au courant, hein, tu vois, c'est, la vidéo doit être compressée selon les bons formats.
Et c'est-à-dire qu'au même titre que quand tu utilises un contenu avec une résolution inférieure sur un écran plus grand, il y a quelque chose qui doit se passer pour que ça s'affiche bien, autant c'est pareil pour les couleurs. En fait, quand tu peux afficher une plage de couleurs beaucoup plus large, il y a bien un calcul qui doit se faire, ou en tout cas un contenu au départ qui doit être pensé pour, quoi.
Oui. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire, hein, parce que donc l'UHD... Alors... il faut savoir donc que la référence, c'est le diagramme CIE, c'est le rendu colorimétrique cinéma. Le rendu colorimétrique cinéma qui est assez large, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Je sais pas exactement combien, mais bon, après, c'est une histoire de diagramme, c'est difficile à l'audio, hein. Mais bon, donc le CIE, c'est la référence, c'est le rendu du cinéma. Le standard HDTV actuel, enfin des 1080p, c'est le REC 709. Et celui de l'UHD, c'est le REC 2020. Le REC 2020 couvre 75%, presque 76% du profil CIE, c'est-à-dire il y a 75% du rendu colorimétrique cinéma qui est dans le standard de l'UHD TV, alors qu'il n'y a que 35% de ce même standard qui est dans le HD TV.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de couleurs affichables, en tout cas dans les standards. Après, ça dépend des modèles, hein. Mais si les modèles sont conformes aux standards, tu fais plus que doubler la fidélité chromatique par rapport au cinéma de ta télévision quand même.
Ok.
Et effectivement, donc il y a toute la chaîne qui doit être compatible. C'est pour ça que il y a des nouveaux standards au niveau du HDMI, par exemple. Donc le HDMI doit être, pour faire passer du HDR, il faut un HDMI en 2.0A. Donc il y a toute la chaîne numérique qui doit être compatible avec le flux vidéo en HDR. Donc c'est quand même relativement bien, comment dire, enfin, c'est pas si bien encadré que ça pour le moment, mais il commence à y avoir des vrais standards, puisqu'il y a le Dolby Vision et le HDR10 qui sont plus ou moins en concurrence, et il y a même d'autres trucs qui risquent encore de voir, mais bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de normes, donc c'est un peu la foire, mais bon, le HDR10 a de bonnes chances, je pense. En tous les cas, si vous voulez une télé HDR, il serait peut-être bon d'attendre un petit peu.
À moins que vous soyez très riche, auquel cas, faites-vous plaisir.
Mais voilà, sinon, faites-vous plaisir. Parce que ouais, c'est vrai que c'est quand même pas complètement de cadeau. Enfin bon, toujours est-il que on a vu un petit peu donc le HDR et le truc... voilà, le 4K UHD. Donc, c'est difficile de trouver des 1080p HDR, hein, je vous dis tout de suite. Je ne sais pas si ça existe. Hein, donc, c'est forcément du HD, c'est forcément des nouvelles télévisions. Et alors, est-ce que ça vaut le coup? Bah, chacun, évidemment, se fera son idée.
Bah, quand même, vu ce que tu décris en termes de, déjà en termes de contraste, de, en termes de contraste, quand tu parles de l'HDR, ça fait rêver, effectivement, parce qu'il doit avoir des couleurs carrément éclatantes, pour le coup.
Bah, si, voilà, s'il y a un truc qui est clair, c'est que c'est beaucoup moins bidon que la stéréoscopie sur les télévisions, quoi. Parce que c'est vrai que, clairement, ça permet aux constructeurs de proposer des nouveaux modèles de télévision, de renouveler leurs marges. Bah parce que, évidemment, dans les télés, les marges sont assez faibles, et une fois que les marchés sont saturés, bah forcément, il faut sortir des nouveaux modèles. Bon, on pourrait voir ça comme encore un nouveau standard pour faire changer de télévision. Le fait est que
ça apporte quelque chose,
les évolutions technologiques sur les écrans permettent aujourd'hui d'améliorer la qualité d'image de manière vraiment significative. Et je trouve que c'est moins bidon que... Enfin, c'est même... pas bidon, en fait. Y a vraiment une amélioration significative, et c'est quelque chose qui parlera sans doute beaucoup plus au grand public que la stéréoscopie. Je pense, très honnêtement.
Tu parlais de Nintendo dans la liste des...
Non, mais c'est une drôle, arrête.
Ah, c'est le blog. Je me disais qu'il y avait peut-être une techno.
Non, mais il y a marqué trouver le truc.
Mais oui, mais bon, quand même. Et du coup, ça m'inspirait une question intelligente quand même par rapport à ça, ou pas, peut-être. Les écrans 3DS, la 3D qui est foutue dedans, surtout les dernières techno, comment ça marche par rapport à ça?
C'est du lenticulaire. C'est un écran LCD standard où il y a... sur chaque colonne, tu mets une petite lentille, comme ça, qui dévie les rayons lumineux. Et du coup, le réseau lenticulaire, le réseau de lentilles, va faire que selon où tu te places, tu vas voir soit la colonne paire, soit la colonne impaire.
D'accord.
Et c'est tout. C'est-à-dire qu'à certains points de l'espace, tu vas voir la colonne paire. Donc il y a un certain nombre de positions limitées, hein, d'ailleurs. Hein, ça se voit très bien quand on a une 3DS. Selon où vous vous mettez, vous avez une image dédoublée. Et sinon, vous avez le truc en 3D. Donc, il y a l'image de l'œil gauche est affichée sur les colonnes paires, l'image de l'œil droit est affichée sur les colonnes impaires, et vous avez les lentilles qui orientent les rayons de telle manière à ce qu'à certains endroits, vous êtes bien positionné pour voir, pour que vos deux yeux perçoivent exactement les lignes paires et les lignes impaires. Donc, c'est une... Alors, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, honnêtement. Et ça marche plutôt bien.
La toute dernière, moi, enfin, les premières qui étaient arrivées, j'avais vraiment du mal. Ça me faisait mal aux yeux quand je testais. Pourtant, c'était des simples tests de quelques minutes. Et les dernières, là, que j'ai pu tester en magasin, je trouve que c'est assez convaincant, effectivement.
Oui, parce
ça apporte
qu'il y a
quelque chose. Et c'est
oui,
pas...
parce qu'il y a un suivi. Il y a un suivi du regard. C'est-à-dire, elles te regardent en permanence. Les nouvelles, les new 3DS, elles
et
ont
ça,
une...
Et ça, ça te fait pas flipper
elles
de te savoir regarder
en
permanence.
Oui, mais c'est Nintendo.
Ah, je rigole.
Elles ont une caméra infrarouge, tu le remarques, elles ont un petit œil. Elles ont une caméra infrarouge et cette caméra infrarouge regarde tes yeux. Et
donc
elles savent où tu regardes et où tu es, disons, par rapport à l'écran. Et ça permet à la machine, en temps réel, d'ajuster quelle image est où. Et c'est pour ça que tu peux bouger sans perdre l'effet de 3D, parce que justement, l'effet de discrétisation, tu sais, où tu as des points, disons, isolés dans l'espace où tu peux voir le truc, et il est compensé par le fait que la console, elle fait bouger, comme ça, elle fait bouger les deux images, pour compenser ta propre variation de position. C'est très, très... Bah, honnêtement, ça marche super bien.
Ouais, c'est clair que c'est assez bluffant, je trouve que c'est vraiment très cool.
Et ça marche dans à peu près toutes les conditions, puisque c'est infrarouge, ça marche même de nuit. Écoute, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très malin en fait, d'avoir intégré ce genre de truc. Je sais pas si la NX sera encore 3D, c'est probable que non, et d'ailleurs ça m'énerve, parce que
mais bien
ça
sûr qu'elle sera 3D, tu ne t'inquiète pas, elle aura tout cette NX, elle aura tout.
On en parlera. Rien, ça m'énerve.
Ils auraient pu faire un effort pour l'anniversaire, quoi.
Ouais.
Alors, c'est pas joli.
C'est vrai.
Du coup, sans parler de la NX, on peut peut-être continuer à parler de la PS4, notamment en regard de ce dossier que tu viens de développer.
Ben oui, parce que la PS4, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un patch dernièrement pour la rendre compatible HDR.
Ça, c'est bon, ça. Alors là, c'est comme si tu me disais qu'avant, ce que tu as raconté sur les télés, c'était intégré depuis longtemps et qu'il y a eu un patch qui permettait de déployer le HDR sur les télés. C'est quand même...
Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que les ingénieurs de chez Sony, ils ont prévu le coup et ils ont fait un contrôleur HDMI qui peut être mis à jour et qui est ouvert. Ça, c'est quand même très fort. De notre côté, je comprends pas à quoi ça sert. Soyons clairs, je comprends pas à quoi ça sert parce qu'il n'y a pas de contenu HDR sur la PS4. Et a priori, il n'y en aura pas non plus, parce que le HDR étant réservé aux écrans UHD, et que l'UHD étant réservé à la PS4 Pro, je ne vois pas pourquoi toutes les PS4 sont HDR. J'ai pas compris. Bon, cela dit, il y a un truc qui m'a interpellé aussi. J'ai lu un article très intéressant qui disait bien qu'il n'existe pas de Blu-ray UHD. Vous savez, les Blu-ray 4K là, qui se vendent dans le commerce, il n'y en a pas beaucoup là, encore. Vous avez les Blu-ray standards qui sont full HD, 1080p, puis vous avez des Blu-ray 4K UHD. Vous avez une poignée de films qui sont donc en 4K, et ils sont compatibles qu'avec des platines 4K. Bon. Sauf que dans ces platines 4K, qu'est-ce qu'il y a comme lecteur Blu-ray ? Eh bien, il y a le même lecteur Blu-ray que dans les autres.
Ah bon, c'est pas un laser différent.
Eh ben non, c'est un laser. Ben non, en fait, c'est des lecteurs Blu-ray qui sont compatibles de lire, qui sont capables de lire des triples couches, donc jusqu'à 100 gigaoctets. Mais ça, tous les lecteurs Blu-ray modernes, ou à peu près modernes, savent le faire. Il n'y a pas de différence. Et la console PS4, elle est parfaitement capable de lire les Blu-ray 100 gigas. Tout simplement parce que les jeux sont énormes, hein, et 100 gigas pour un jeu, c'est pas forcément si élevé que ça. Du coup, est-ce que la PS4 pourrait lire des Blu-ray UHD ? Il est tout à fait possible que techniquement, ça soit envisageable.
Ouais, parce que le seul frein, compte tenu de ce que tu dis là, c'était le HDR.
Non, il y a plusieurs freins. D'une part, il y a le HDMI qu'il faut mettre à jour. Oui. En 2.0 pour pouvoir faire passer du flux 4K. Ensuite, il y a le problème de codec, mais ça, je crois que les codecs, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est capable de décoder le H265. Et il y a, mais ça, c'est probablement le plus gros problème, le problème des licences. Puisqu'il faut des licences spécifiques, donc il faut le HDCP à jour, c'est-à-dire le HD Copy Protection, donc c'est le protocole de chiffrement du flux vidéo entre la platine et la télévision, et il faut les clés de déchiffrement et les licences pour pouvoir le faire. Et clairement, probablement, hein, dans la PS4, la PS4 n'est pas équipée des licences HDCP 2.2 et ou Synavia. Donc c'est probablement le souci. Sauf que ça peut se patcher en software, tranquillement, du moment que Sony achète les licences pour la PS4, quoi.
D'accord.
Du coup, que Sony n'ait pas inclus pour économiser le prix des licences, ça peut se comprendre, tu vois. Mais est-ce qu'il est envisageable que la PS4 devienne un lecteur Blu-ray 4K dans le futur, si Sony investit? Ça pourrait être un bon move, ça, parce que quand même 40 millions de lecteurs Blu-ray 4K, ça pourrait donner un vrai coup de pouce à ce format, tu vois.
Ouais.
Donc c'est pas évident, et finalement technologiquement il n'y a pas vraiment de, enfin c'est un choix, quoi. C'est-à-dire la Xbox One S, en fait, elle est pas plus évoluée technologiquement, c'est juste qu'elle a les bonnes licences, tout simplement, parce que je rappelle, la Xbox One S est capable de lire des Blu-ray 4K et elle est compatible avec la chaîne, tu vois. Donc la PS4 Pro, qui n'est pas non plus compatible a priori avec les Blu-ray UHD 4K, il n'y a aucune raison technologique qu'elle ne le soit pas. C'est juste qu'elle ne l'est pas parce que au niveau logiciel, au niveau légal, c'est pas encore fait, quoi. Mais ça pourrait être fait dans le futur, en réalité.
Est-ce qu'on en est sûr qu'il n'y a que ça qui freine, enfin qui bloque, ou pas?
Non, on n'en est pas sûr, mais il y a des discussions comme ça où il y a de très 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 forts indices comme quoi, en fait, ça marcherait très bien, quoi. En tout cas, on ne voit pas très bien pourquoi ça ne marcherait pas, quoi.
Ah, d'accord. Bon, je pense qu'il y aura une preuve qui sera apportée peut-être dans pas longtemps, quelqu'un qui va pouvoir le prouver.
Oui, parce qu'on se plaignait beaucoup que la PS4 Pro, Nani Lana, elle a fait pas la Blu-ray UHD. Bon, c'est vrai, c'est dommage. Mais est-ce que c'est définitif? Finalement, on peut se poser la question. Tu vois, c'est,
ouais, ce qui serait encore plus bizarre, en fait.
Ce serait encore plus bizarre, ouais, il faut dire. Mais bon. Et cette PS4K, elle est... Enfin, cette PS4K, cette PS4 Pro, désolé. C'est vrai qu'elle est, elle est relativement intéressante, finalement. Hein.
Ah, tu vois, tu vas l'acheter.
Non, j'ai pas dit ça. Mais par contre, j'ai vu passer un article qui expliquait que... Parce que moi, je suis un peu bené des fois. Tu sais, je me dis, bon, la PS4K, bah, c'est presque pareil qu'un PC. La PS4 Pro, je veux dire, elle est presque pareil qu'un PC, plus puissante que la PS4. Bon, tu te dis, la rétrocompatibilité, il n'y a pas de rétrocompatibilité, tu vois. C'est comme si je faisais...
Ça marche plus fluide parce qu'il y a plus de RAM et un peu plus...
Exactement, exactement. Sauf que non. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Parce que finalement, sur la PS4, c'est quand même une console de jeux vidéo. Et les développeurs ont quand même la possibilité de faire des choses qui sont beaucoup plus optimisées, beaucoup plus proches du matériel, et proches à tel point qu'il pourrait y avoir des gros problèmes de timing si tu changes ne serait-ce que d'un mégahertz, enfin la fréquence du processeur, quoi. Parce qu'il y a des jeux qui sont susceptibles d'attendre que l'image elle termine exactement à ce moment-là pour envoyer quelque chose exactement à ce moment-là dans la RAM, etc., tu vois. Et ces problèmes de timing, ils sont tellement importants que, en fait, la PS4 Pro doit émuler la PS4. Et il n'y a pas de vraie rétrocompatibilité. En fait, il y a un environnement virtuel, il y a une virtualisation de la PS4 sur la PS4 Pro.
Et ce qui milite encore plus pour le fait qu'il y ait des jeux qui soient développés spécifiquement pour la PS4 Pro, du coup.
Alors non, parce que c'est une volonté de Sony et que donc c'est interdit. Hein, Sony l'interdira. Ouais. Néanmoins, c'est les ingénieurs de conception de la PS4.
Commercialement parlant, d'accord, mais technologiquement parlant.
Il y a un brevet, ça y est, j'y suis arrivé. Il y a un brevet qui a été déposé par les ingénieurs de Sony, dont Marc Cerny, qui est l'ingénieur en chef, le concepteur de la PS4. Qui porte sur un dispositif de fausse horloge. C'est-à-dire qu'au lieu de... Parce que tu sais que la PS4 et la PS4 Pro, elles n'ont pas la même fréquence d'horloge au niveau CPU. Mm-hmm. Donc il y en a une qui va un poil plus vite. Et du coup, on pourrait se dire, ma foi, quand elle voit passer un jeu PS4, elle a qu'à baisser la fréquence d'horloge. Sauf que non, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que les latences ne sont pas les mêmes. Et du coup, même si tu baisses la fréquence d'horloge, une PS4 Pro downclockée n'est pas une PS4. Et du coup, même ces petits trucs sont pas assez. Enfin, les tout petits détails sont importants.
Et du coup. Tu te rends compte quand même, d'un point de vue commercial, ce que ça fait pour les gens qui achètent une PS4 Pro, ce que tu es en train de leur dire. Tu es en train de leur dire, vous achetez un foudre de guerre qui émule une machine moins puissante.
Oui. Oui.
C'est quand même fou.
Oui. Le problème, c'est pas une émulation, hein. c'est plutôt une virtualisation, on va dire. Et heureusement, c'est exactement les mêmes processeurs, tout ça. Donc, il y a une grosse compatibilité. Mais néanmoins, le brevet fait quand même état d'un mécanisme très spécifique pour faire une fausse horloge qui serait lue par les jeux PS4 standard et pas par les jeux PS4 Pro. Et cette fausse horloge, elle a un multiplicateur très spécifique pour permettre justement d'émuler, de simuler le comportement d'une PS4 Pro, du CPU d'une PS4 standard, pardon, sur une PS4 Pro. Et donc, du coup, on se demande, mais et pour la carte graphique ? Parce que la carte graphique, c'est pas la même. Elle a plus d'unités, et c'est pas exactement les mêmes unités, et il n'y a pas exactement la même latence de mémoire, tu vois. Du coup, là où ça devient cauchemardesque, c'est que si il faut émuler le GPU, la carte graphique d'une PS4 avec la carte graphique d'une PS4 Pro, d'une manière fine, bas niveau, mais c'est un cauchemar.
Pourquoi est-ce qu'ils l'ont commercialisé?
Il faut faire un BIOS spécifique qui interdit l'utilisation de ça. Ça va être quelque chose de très 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 fin. Et d'où, enfin, moi je posais la question, hein. Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait une PS4 Pro au lieu de faire une PS5 dans 2 ans. Là, je me le demande plus que jamais parce que ça a l'air.
Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, même d'après ce que tu décris, il n'y a aucune guideline qui permet pour un développeur de jeu de tirer parti de la puissance de la PS4 Pro, alors.
Mais le truc, c'est que les développeurs n'ont rien à voir là-dedans. C'est-à-dire, les développeurs, eux, ils fabriquent. Oui, vas-y.
Ce que je veux dire, c'est que, tel que tu me l'expliques, la PS4 Pro, elle est, je schématise énormément parce qu'elle est plus puissante,
oui.
Mais on ne peut pas tirer parti de cette puissance puisque de toute façon, elle fait une émulation de jeux PS4 classique, enfin elle fait une émulation de PS4 classique pour les jeux existants et qu'il n'y aura pas de jeux PS4 Pro.
On va préciser. Les jeux PS4 classiques qui sont développés pour une PS4 s'exécuteront de manière identique sur une PS4 Pro et c'est ça qui est super compliqué pour les ingénieurs qui fabriquent la PS4 Pro.
J'ai compris.
Maintenant, les jeux qui sortent sur PS4 Pro devront aussi tourner sur PS4, mais ça, c'est pour les pieds des développeurs.
D'accord.
Les développeurs vont devoir faire 2 jeux.
D'accord, donc là, effectivement, c'est vraiment prendre en compte...
Ou en tout cas, un jeu qui s'adapte de manière parfaite aux deux machines.
Putain, c'est extraordinaire, quand même. C'est extraordinaire. Ouais, c'est complexe, ce qu'ils nous ont lancé d'un point de vue commercial. Je ne sais pas si un jour, on aura le fin mot de l'histoire. Ça donne l'impression qu'il y a un sens caché qu'on comprendra plus tard, mais peut-être pas, en fait. Du coup, tu avais une petite conclusion que tu voulais proposer, si je me trompe pas trop. Est-ce que si tu te prends un super écran de la mort qui tue, qui requiert toutes les bonnes caractéristiques que tu nous as listées tout à l'heure, le top du top, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce que c'est une PS4 Pro ou une Scorpio ?
Non, mais en fait, c'était une boutade parce que je lui ai dit qu'il faudrait prendre une NX, mais... Parce que moi j'allais prendre la machine sur laquelle il y aura Zelda, mais bon. Non, mais en fait c'est un petit peu le truc, c'est-à-dire vous prenez un peu ce que vous voulez, finalement c'est les jeux qui comptent, quoi. Ouais. Parce que en fait, et c'est vrai, hein, entre les deux, bon ben moi je regarde les jeux qui m'attirent le plus. Et c'est vrai que le prochain jeu que j'ai envie de faire, c'est Zelda, quoi.
Mais c'est enfin, honnêtement, c'est le cas de tout le monde. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent, enfin, peut-être si je me trompe. Je pense que l'élément déterminant pour une console aujourd'hui, ça va être tout ce qui est d'un point de vue écosystème, tout ce qui tourne autour, l'interface. Tu vois, moi, schématiquement, la PS4 me paraît être une machine qui a un store avec des jeux indépendants plus riches. C'est peut-être ça la différence, tu vois, non ?
Alors, non, mais si on veut être un peu sérieux entre le choix PS4 Pro ou Scorpio...
PS4K.
Mais j'y arrive pas. PS4 Pro, j'y arriverai pas. C'est dur. Du coup, bon, ouais, si on veut être un peu sérieux, bon, la Scorpio, ce sera une machine qui sera beaucoup plus puissante que la Xbox One et qui sera plus puissante que la PS4 Pro, ce qui probablement pose exactement les mêmes problèmes aux ingénieurs de chez Microsoft, puisque les jeux Xbox One tourneront aussi sur son Scorpio. Donc, à mon avis, ils sont exactement dans la même problématique et ça doit être vraiment pas sympa du tout. Au passage, d'ailleurs, je plains les ingénieurs qui sont chargés de la rétrocompatibilité Xbox 360 sur Xbox One. Vraiment, les gars, respect, quoi. Respect. Il faut savoir que la rétrocompatibilité PS2 sur PS4, c'est-à-dire les stores qu'on a sur les stores, c'est aussi fait via une machine virtuelle et que les jeux doivent être en partie recompilés. Quand même. D'accord. C'est quand même un sacré bordel aussi.
Tu nous avais parlé de ça, effectivement, c'est pour la 360 et Xbox One. Tu nous avais
parlé. Donc pour la PS2, sur la PS4 aussi, c'est un sacré bordel. Et alors sur la 360, sur la One, j'imagine même pas. Enfin, bon. Donc globalement, oui, laquelle choisir, bon, ben, c'est clair qu'il y en a une qui sera plus puissante que l'autre, hein, c'est vrai. Il y aura de très bons jeux sur la Scorpio, c'est certain. Il y en a déjà qui sortent, hein, d'ailleurs. Forza Horizon 3 est un des premiers jeux en HDR sur Xbox One. Enfin, sur Windows One S, plus exactement, et ça dépote, hein. C'est vrai que c'est vraiment très très fort. Donc oui, il faut voir. Est-ce que commercialement, par contre, la Scorpio a une chance d'écraser la PS4 Pro parce qu'elle est beaucoup plus puissante ?
Pas forcément.
Mais le problème, effectivement, c'est que la PS4 Pro aura beaucoup d'avance, quoi, hein. La Scorpio va sortir fin 2017, et de ce point de vue-là, la PS4 Pro aura un an d'avance, et même si elle est moins puissante, les développeurs vont trouver des moyens d'exploiter justement la puissance de la PS4 Pro, de faire de la 4K en utilisant des trucs et astuces comme ils peuvent, et ça marchera. Moi, je pense que ça marchera. Moi, je suis assez inquiet pour Microsoft, parce que un retard d'un an, ils ont intérêt à sortir des jeux Scorpio qui décoiffent, hein, parce que un an de retard sur une console, c'est très très long, quoi, dans le monde des consoles. Bon, à voir.
C'est là où l'adage a toute sa place. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mais ça, tu l'avais déjà prouvé avec toutes les explications que tu nous donnais sur les consoles, même de plus anciennes générations, ou avec des ressources moins impressionnantes, voire très très limitées. Les mecs développent des trésors d'intelligence pour exploiter les ressources des machines, et c'est vraiment ce qui est chouette. Écoute, merci beaucoup, Guillaume, pour cette 30e chronique des composants. On a fait le tour, tu penses ? Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous alors à plusieurs niveaux. D'une part, sur le site techcafé.fr, parce qu'on a besoin encore et toujours de vos remarques, de vos compléments ou de vos corrections sur les différents sujets qu'on aborde. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est pour un prochain épisode de Tech Café ou de la chronique des composants. À tout bientôt. Ciao.
Ciao.